Je vais vous présenter maintenant Madame Monique David-Ménard. Donc, elle est née en 1947 à Lyon. Elle est psychanalyste et philosophe. Elle est professeure à Caen et directeur de recherche à l'Université Paris 7. Elle est membre du Centre d'études du vivant. Elle est psychanalyste à Paris. Actuellement, elle est vice-présidente de la Société de psychanalyse freudienne. Concernant son parcours, elle a été professeure de philosophie dans les classes préparatoires aux grandes écoles, notamment l'École nationale supérieure, dans la section mathématiques et sciences sociales. Elle a été directrice de programme et vice-présidente du Collège international de philosophie, chargée des relations internationales. Quant à ses spécialités, elle est spécialiste de Freud et de Lacan. Elle a travaillé sur Kant dans une démarche mi-philosophique, mi-psychanalytique et sur les femmes. Ses travaux récents ont porté sur la notion de plaisir et sur la sexualité. Quant à ses publications, elle a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées, nationales et internationales, a participé à plusieurs colloques et séminaires. Elle co-dirige avec Ali Ben Maclouf la collection Débats philosophiques aux éditions Le Fennec. Elle a publié des ouvrages, donc notamment en 1983, L'hystérique entre Freud et Lacan, Corps et langage en psychanalyse, aux éditions universitaires. En 1990, La folie dans la raison pure, Kant, lecteur de Swedenborg, chez Vrin. En 1997, Les constructions de l'universel, au PUF, et en 2000, Tout le plaisir est pour moi, chez Hachette Littérature. Elle est membre successivement de l'École freudienne de Paris, du Centre de formation et de recherche psychanalytique et de la Société de psychanalyse freudienne. Madame David-Ménard, je vais donc vous céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public pour une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci beaucoup et bonsoir. J'ai intitulé cette conférence « Les pulsions sexuelles ignorent-elles l'esprit ?» en essayant de voir ce qui se passe dans ce grand écart entre la sexualité et l'esprit. Quand on évoque l'expression de pulsion ou le terme de pulsion dans les conversations courantes, il reste associé à ce qui serait la nature en l'homme, par opposition à tout ce qui participe de la pensée, de la culture, de l'esprit. Les pulsions sont réputées être bestiales, exprimées sous forme d'actes immédiats, ou réalisant sous forme d'actes qui visent une jouissance immédiate, des aspects de la vie humaine qui seraient incompatibles avec une volonté réfléchie où s'exprimerait ce qui est propre à l'homme. Depuis qu'elle existe, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle, on accuse dans ce registre la psychanalyse de réduire l'esprit à ce qui est à peine de cet ordre-là en l'homme, à savoir la sexualité. La sexualité serait tout sauf l'esprit et la psychanalyse serait un pansexualisme. On va voir en quel sens c'est vrai et en quel sens, au fond, cette critique tombe à côté de la plaque. Mais même en psychanalyse, on dit souvent que le travail qui s'accomplit entre un patient et son analyste concerne les représentants psychiques de la pulsion et gère la pulsion elle-même. On a donc pour argument que la règle fondamentale de l'analyse exige que les réalisations sexuelles soient interdites dans le cadre d'une cure, et que l'analysant dise tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est-à-dire on serait dans un pur processus de pensée. Et d'ailleurs, dans notre société, la multiplication des techniques psy reproche souvent à la psychanalyse de ne pas s'intéresser au corps, d'être trop dans la pensée. On a affaire, si l'analyse porte sur les représentants psychique de la pulsion, on aurait affaire à ce qu'on appelle alors le psychisme, et l'on sépare la psyché ainsi objectivée de ce qu'on abandonne alors, soit au somatique, soit à l'organique, selon le cas. Si l'emploi du terme de pulsion est si confus, c'est qu'il met à l'épreuve les conceptions de l'esprit et du corps dont peuvent se réclamer à la fois la philosophie occidentale et la neuroscience contemporaine lorsqu'elles discutent du mind-body problem. Je distinguerai peut-être de ce point de vue, on pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse, les neurosciences et la neurobiologie, qui n'ont pas nécessairement sur cette conception de l'esprit la même idée. Nous disposons de deux concepts de l'esprit que nous pouvons référer aux noms respectifs d'Aristote et de Descartes. Pour Aristote, l'esprit, c'est l'activité qui se déploie dans la saisie de ce qui est purement intelligible, les mathématiques, le divin, le nécessaire, la contemplation du nécessaire. Mais aussi, ce principe qu'il appelle esprit est à l'œuvre, sous diverses formes, dans toutes les transformations dont sont capables les êtres vivants, les êtres qui peuvent aller vers une perfection, vers leur perfection. Au premier chef, les êtres vivants sont une matière informée, c'est-à-dire une matière dont les matériaux sont structurés par un principe d'unification qui est l'équivalent de l'esprit pur, mais qui est à l'œuvre dans un corps. L'esprit ainsi engagé dans un corps et qui lui donne sa forme de corps s'appelle une âme. On comprend alors la célèbre formule d'Aristote qui dit la chose suivante: l'âme est la forme d'un corps naturel qui a la vie en puissance. Ça veut dire la chose suivante, on appellera âme le principe spirituel qui habite un corps capable de se transformer par lui-même, ça c'est pour le mot nature, de telle manière qu'il vive. Ou encore, vivre, pour un corps organisé, c'est exprimer l'une des modalités de l'esprit, mais il en existe d'autres déploiements, par exemple la pensée. Cette manière de différencier, tout en les unifiant, les diverses modalités d'un principe unique, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'intellectualisme. L'esprit et l'âme, c'est la même chose, sous deux formes différentes. Ou encore, en des termes plus précis peut-être, il y a un principe commun dans le déploiement de l'intelligence pure qui connaît des vérités nécessaires et dans l'animation d'un corps vivant. Et comprendre ce qu'est la vie, c'est faire le rapport entre la vie et l'esprit pur. L'esprit en lui-même est au-delà de toutes les transformations, mais il est aussi ce qui active toutes les transformations dans les êtres qui ne sont pas purement spirituels. C'est un peu schématique, mais c'est au moins pas trop faux à propos d'Aristote. Le second concept de l'esprit dont nous disposons est celui de Descartes. L'esprit se découvre et s'exerce dans la pensée, ce qui n'a rien à voir avec l'animation dont parlait Aristote et qui paraît, pour Descartes, confuse. On distinguera toujours, si on veut penser clairement et distinctement, l'ordre de la pensée, de l'ordre des corps et de la matière, et nous avons les moyens intellectuels de penser notre corps comme un corps, c'est-à-dire comme une machine, même si métaphysiquement, nous devons admettre que l'union de l'âme et du corps est irréductible à une donnée mécanique. Dieu seul a le secret de ce que c'est que l'union de l'âme et du corps, disait Descartes, mais comme il est principe de vérité, et que quand on pense clairement et distinctement, on pense, on réduit tout ce qui est matière, on fait de la matière une mécanique, nous avons le droit de connaître mécaniquement notre corps. Descartes récuse donc l'étagement des formes de l'esprit que définissait Aristote. La pensée et l'esprit deviennent avec lui des synonymes, mais il est intellectualiste lui aussi, c'est-à-dire que tous les aspects de la pensée sont soumis à un même modèle. La pensée, il la définit comme ce qui a la connaissance pour fonction. Tout ce qui n'est pas la connaissance en l'homme tient sa rationalité du rapport quand même à quelque chose comme la connaissance. Percevoir, vouloir, sentir, imaginer sont des actes rationnels en ce que ces activités peuvent être rationnelles.
que l'imagination exige pour être comprise d'autres principes d'analyse que ceux qui rendent compte de la connaissance. Autrement dit, pour Aristote comme pour Descartes, il y a une notion unique de ce que c'est que la pensée. Les neurosciences contemporaines se sont éloignées à certains égards de Descartes. Ce n'est plus seulement le corps qu'elles se donnent le droit de modéliser par des machines, c'est aussi la pensée elle-même, et dans le corps, l'organe de la pensée, c'est-à-dire le cerveau. Mais, ce faisant, elles définissent leurs problèmes à l'intérieur des deux sortes de réalités que Descartes déclarait pouvoir comprendre, la réalité matérielle des corps et celle de la pensée. On discutera alors de la question de savoir si le corps et la pensée sont la même chose, dès lors qu'on en construit un modèle informationnel unique. Ceci rend plus complexe le dualisme, mais n'en change pas les termes. C'est la capacité de réaliser des modèles informatiques qui définit l'unique notion de ce qu'on appelle pensée. Comme on le voit, dès qu'on parle de l'esprit, on est amené à parler de la matière et de cette matière spécifique qu'est le corps, et dès qu'on parle du corps, on est amené à parler de ce qui le spécifie comme corps vivant et du rapport entre vie et pensée. Or, ce qui définit la conception psychanalytique des pulsions sexuelles et de la pensée, c'est qu'elle contourne complètement le dualisme cartésien du corps et de la pensée, mais aussi l'idée aristotélicienne de l'âme comme principe spirituel engagé dans une matière, mais faisant néanmoins système avec l'esprit pur. L'idée de Freud, c'est que pour concevoir en quoi le rêve pense, par exemple, il faut cesser de se référer à une conception de la pensée qui prend la connaissance pour modèle. Autrement dit, il faut cesser d'être intellectualiste. La logique du rêve n'est pas une préparation à, ni une dégradation de la pensée qui connaît le monde ou qui connaît soi-même. La logique du rêve, c'est la mise en forme de désirs qui cherchent leur interlocuteur. Et de la même manière, les pulsions ne relève ni du corps de la physiologie ou de la biologie, ni du corps animé d'Aristote, mais d'un corps qu'il convient de concevoir par un concept spécifique, le corps érogène. Une conception de la pensée qui n'a plus la connaissance pour modèle de la pensée, une conception du corps érogène qui se définit par d'autres coordonnées que celles du corps biologique et physiologique, et une autre manière de répartir ce qui est du corps et ce qui est de l'esprit, tel est l'enjeu d'un savoir concernant la sexualité. Ou plutôt, pour comprendre les pulsions sexuelles, il faut cesser de répartir, et même peut-être d'employer les termes de corps et d'esprit, car ils sont trop marqués par les problèmes philosophiques traditionnels, et même par certains problèmes scientifiques contemporains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la jonction, mais ça veut dire qu'on a besoin de mettre au point des concepts spécifiques. Le fait dont le concept de pulsion s'applique à rendre compte est le suivant. Des hommes et des femmes, sous la pression de certaines souffrances, d'échecs répétés dans leurs activités dont ils ne saisissent pas les enjeux, de troubles qui envahissent leur existence sans qu'ils puissent en modifier les manifestations, ces hommes et ces femmes viennent, comme on dit, en parler à quelqu'un. Il peut s'agir de l'échec d'une relation amoureuse qui plonge telle personne dans une affliction dont il ou elle ne sort pas. Il peut s'agir de l'impossibilité à se sentir à sa place dans une activité professionnelle qui rend vaine toute tentative pour en trouver une qui soit vraiment satisfaisante. Ou encore de l'envahissement de l'existence par une angoisse qui empêche qu'on sorte de chez soi, etc., etc. Dans tous ces cas, ce qui amène à venir parler à quelqu'un concerne une activité qui aurait dû procurer un plaisir, et un plaisir où l'individu concerné se trouverait lui-même, mais un plaisir ou l'activité qui tourne au déplaisir, à un déplaisir suffisamment fort pour que surgisse, comme ultime recours, l'idée de s'adresser à un inconnu. L'hypothèse de la théorie psychanalytique consiste à faire de cette adresse à un inconnu tout autre chose qu'une donnée contingente. Il s'agit, dans l'hypothèse de la psychanalyse, d'une donnée structurelle des pulsions. On n'isolera donc pas les sensations et les affects, ni de la pensée, ni de la fonction d'adresse du langage, si on veut comprendre en quoi les pulsions concernent l'esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le même concept de corps quand on fait une physiologie de la perception, par exemple de la vision, et dans le champ de la psychanalyse. C'est qu'on ne peut pas isoler de ce qu'on sent ce qui, dans les sensations, s'adresse non seulement à quelqu'un, mais à un inconnu. Pourquoi inconnu ? C'est là-dessus que je vais essayer de m'expliquer. Le champ des pulsions sexuelles a donc pour coordonnées le plaisir, le déplaisir, l'angoisse, et ce qui peut passer de ces expériences dans un discours. Le plaisir, le déplaisir et l'angoisse concernent le corps, mais un corps qui est d'emblée dans le même registre de réalité que le langage. Un langage qui importe moins ici par son pouvoir d'information, ou de connaissance, ou encore de signification, donc l'important c'est pas le sens en psychanalyse, qui importe moins par son pouvoir de signification que par sa capacité à matérialiser ce fait que ce que nous approuvons s'adresse à quelqu'un d'inconnu. Qu'est-ce qui rend nos plaisirs et nos déplaisirs aptes à s'adresser à un autre inconnu ? Comment est-il possible que l'identité singulière des êtres humains se forme et se déforme sur ce terrain dont les coordonnées traversent l'opposition de l'esprit et du corps, ainsi que celle de la nature et de la culture. C'est pour rendre compte de ce fait que Freud a redéfini la sexualité humaine en la distinguant de la sexualité reproductive. La vie sexuelle est le domaine de nos plaisirs, cherchés, espérés, actualisés, ou selon le cas, inhibés, refoulés comme on dit, de nos déplaisirs et de nos angoisses, qui ont dans chaque cas, sinon un objet prévalent, du moins une configuration particulière. Pour développer les implications de cette affirmation, supposons qu'un être humain est un ensemble de pulsions, c'est-à-dire, disons, d'exigences de plaisir. En empruntant une image thermodynamique, décidons, dans le cadre d'un modèle fictionnel, d'appeler déplaisir toute charge de tension dans cette âme réduite à un appareil à plaisir-déplaisir que nous sommes, et de nommer plaisir la sensation de décharge énergétique le long des voies nerveuses de cet appareil. Je dis c'est une image thermodynamique parce que ça fait référence à la conception de la transformation de travail en chaleur en thermodynamique. Une pulsion, ça fait faire, et ça a une poussée constante, c'est-à-dire que ça, c'est l'obligation d'aller se faire voir, d'aller se travailler, d'aller faire quelque chose. Et ce faire peut être de l'ordre de la pensée, comme on va le voir. On aura ainsi défini le but d'une pulsion qui est toujours le même, l'actualisation d'un plaisir. Si nous sommes une sorte de machine à organiser le rapport de nos déplaisirs et de nos plaisirs, une dimension essentielle de notre pensée se forge dans cette épreuve, c'est que nous ne choisissons pas d'être un système de pulsions. Une pulsion a une poussée constante, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas fuir nos pulsions comme nous nous détournons d'un danger externe. Comme les plaisirs et les menaces sur le terrain desquels se forme la singularité de chacun se développent en rapport avec l'incapacité d'un enfant à rester en vie et à subvenir seul à ses besoins, les autres qui l'accompagnent dans cette période d'impuissance prennent une valeur décisive pour la construction des scénarios dans lesquels son identité se construit. Ce ne sont pas d'abord les autres comme personne totale qui importent ici, mais certains traits des autres. Ce qui vient de l'autre et qui est indispensable à la structuration de nos pulsions n'est pas une cognition, une représentation informative sur l'autre, lorsque ce dernier provoque en nous l'ouverture de circuits de plaisir et de déplaisir. C'est un trait, c'est-à-dire une trace mémorielle, où s'inscrit, sur le mode du plaisir imprévu et de l'attente de son renouvellement, une expérience précise à laquelle notre sentiment d'être nous-mêmes se trouve désormais lié. Il convient de nommer sexuelles ces pulsions, car nos plaisirs sont des plaisirs d'organes. C'est en effet un lieu du corps, ou un rapport entre plusieurs lieux du corps, qui est concerné par ces expériences de satisfaction inattendue qui instaure une attente durable où notre sentiment d'être nous-mêmes se forge. Un circuit s'instaure entre l'exigence pulsionnelle d'actualiser des plaisirs, la rencontre de certains objets et les zones érogènes. Mais il y a une sorte de démesure constitutive de nous-mêmes en tant que nous sommes le système de nos pulsions. Le plaisir d'organe, de démesure ou d'inadéquation. Le plaisir d'organe en lui-même comporte un aspect hallucinatoire et narcissique. L'image qu'on évoque souvent pour le faire comprendre, c'est le susautement d'un enfant qui est comme la naissance à lui-même sur le mode auto-érotique qui se produit, c'est ça qui est important, lorsque sa faim est apaisée, c'est-à-dire quand il n'est plus en rapport avec un objet défini physiologiquement qui apaise un déséquilibre interne qu'on appelle la faim. Et le susautement se produit donc lorsque l'autre qui lui a permis de manger ou de boire, a apaisé le besoin. L'autre, à ce moment-là, change de statut. Ce n'est plus celui ou celle qui permet l'apaisement du besoin, c'est celui qui, par sa présence ou sa absence, colore différemment le retentissement solipsiste du plaisir. Cet auto-érotisme du susautement. Ce qui est décisif dans le rapport des pulsions à l'esprit se produit dans ce trajet qui va d'une zone érogène à quelque chose qui est cherché dans un autre et qui va être l'occasion de déclenchement ou de non-déclenchement d'un plaisir ou un être humain dans son corps réel, mais aussi dans le système imaginaire de ses attentes, se sent lui-même de façon singulière. Ce qui vient de l'autre est décisif, mais n'est jamais que l'occasion d'une expérience de plaisir qui garde une dimension hallucinatoire. Dans le destin de nos plaisirs, nous avons toujours tendance à inclure l'autre dans nos circuits de jouissance sans nous demander s'il est ou non vraiment là où nous le convoquons. L'autre n'est réel pour nous que lorsqu'il refuse d'être à la place où nos attentes le convoquent. C'est le moment de la désillusion, autrement dit, qui nous introduit au fait que l'autre n'est pas ce que nous lui demandons d'être. Cette démesure interne au plaisir, ou encore l'inadéquation de l'objet à l'attente qui ne peut pas ne pas l'investir, consiste dans le fait que l'autre est précieux, enfin implique que l'autre est précieux, car il est l'occasion, mais il n'est que l'occasion qui rend les plaisirs effectifs. Il est secourable parce qu'il est aussi menaçant, cet autre, puisque les traits par lesquels il a inauguré en nous quelque chose de notre identité, il les trace sans le savoir et sans le vouloir. Il peut aussi nous refuser ce qui nous comble et qui est toujours autre chose que ce qu'il est lui-même. Si on pouvait passer du côté de l'autre comme de l'autre côté du miroir. Alors justement, les pulsions ne le peuvent jamais. L'autre importe ici par des traits précis dont nous sommes dépendants et en même temps l'objet dont nous nous satisfaisons est toujours contingent puisqu'il importe par l'effet qu'il produit et dont personne n'a la maîtrise, ni lui ni nous. Autrement dit, une part de l'autre est assimilable par nous et le travail de nos pulsions et de notre pensée consiste à essayer par l'examen constant, par l'attention et même par la logique de la pensée, ainsi que par l'action, à essayer de reproduire les situations qui ont amené un plaisir venant de l'autre. Mais une part de cet autre reste inassimilable et pour cela même opaque, hors de portée, ennemie même. Mais ennemie du fait que cette part inassimilable est constitutive de tel ou tel aspect de nous-mêmes. Inassimilable parce qu'intime, essentiellement immaîtrisable du fait des conditions dans lesquelles il instaure en nous le plaisir et le manque, précieux parce qu'il peut être menaçant. Penser, pour la psychanalyse, c'est pour chaque sujet chercher la configuration de cet autre, dont les traits sont constitutifs de nous-mêmes, mais qui sera toujours décalé par rapport à tout autre réel qui suscite notre passion et à qui nous nous adressons avec cette démesure que le transfert, c'est-à-dire le report sur l'analyste, dans les cures analytiques, reproduit. On voit mieux à présent ce que sélectionne le rapport à l'analyste dans l'expérience humaine. Il s'agit de ce registre où la pensée se forme et ne cesse de se rejouer au plus près des plaisirs et des déplaisirs et en cherchant à quel autre nos plaisirs s'adressent dans une illusion nécessaire qui forme, par la précision des configurations qu'elle trace, notre identité. Une chose encore est décisive dans le destin de nos pulsions. L'objet grâce auquel elles se satisfont et qui est toujours, on l'a vu, décalé par rapport aux rencontres qui en feront surgir les traits, est, à cause même de son caractère contingent, susceptible de transformation. Freud disait dans un texte célèbre, il peut être remplacé aussi souvent qu'on voudra. Mais cette mobilité de l'objet dans les trajets pulsionnels n'implique aucune indétermination. L'histoire d'un être humain peut se lire comme celle de la substitution réglée, et chaque fois spécifique, spécifique de chaque individu, de certains objets pulsionnels à d'autres. Comme l'objet d'une pulsion est d'emblée partiel, il prend sa valeur de son rapport à d'autres et du fait aussi qu'il peut être présent ou manqué, c'est-à-dire qu'il est d'emblée symbolique si le langage est fait d'un système d'alternance vocalique qui donne existence pour l'être humain qui s'y inscrit à la présence et à l'absence. Là, j'indique très brièvement quel a été le point de départ de la relecture de Freud par Lacan. Mais le terme de symbolique, et surtout en France avec la mode du lacanisme à un certain moment, le terme de symbolique a été employé en tellement de sens qu'on distingue mal ce que ça veut dire. Et qu'il est préférable, si on veut avoir les idées claires, et au fond pour penser le statut de l'objet des pulsions, de revenir au sens étymologique de cette notion, pour saisir en quoi l'objet d'une pulsion est symbolique. Pour saisir aussi en quoi les déplacements des objets pulsionnels confèrent une teneur sexuelle à toutes les activités humaines, à toutes les pensées et à ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Alors qu'est-ce qu'un symbole ? Un symbolon, un symbole, dans les institutions de la Grèce ancienne, c'était un objet coupé en deux, dont deux hôtes conservaient chacun une moitié qu'ils transmettaient à leurs enfants. Ils servaient de signe de reconnaissance pour des gens séparés depuis longtemps. Dans les relations diplomatiques, les deux parties rapprochées du symbole servaient à faire reconnaître les porteurs et à prouver les relations d'hospitalité contractées antérieurement. On ne saurait mieux caractériser le statut des objets pulsionnels qu'en disant qu'ils sont symboliques en ce sens étymologique. C'est-à-dire qu'ils représentent ce qu'on cherche dans l'autre et il y a toujours un décalage entre l'autre qu'on cherche et cet objet qu'on trouve ou qu'on trouve. Les objets pulsionnels matérialisent et portent l'espoir d'union avec des figures d'altérité qui, pour nous, sont nous-mêmes et dont nous sommes néanmoins séparés. Nous n'avons pas d'autres dont nous sommes néanmoins séparés, comme les deux morceaux du bâton sont séparés. C'est-à-dire qu'à la fois, on cherche l'adjointement, et en même temps, il y a toujours le risque que ça ne se passe pas. Nous n'avons pas d'autre moyen de connaître ces objets que de risquer d'être attirés par eux, et c'est par là que se forme le style d'un être humain, sa singularité, à travers ses amours, ses pensées, ses actes. C'est toujours un autre qui détient cet objet, que ce soit par une partie de son corps à laquelle s'adresse le désir sexuel, ou par tel de ses traits, une inflexion de la voix, un idéal qui nous attire et par lequel un autre nous a, comme on dit, marqué, une activité qui nous séduit, un problème que cet autre traite de façon apparemment abstraite, mais qui est justement pour nous ce qui devient le plus réel dans ce que nous cherchons dans l'existence. Dans La folie de la raison pure, que vous avez cité, j'ai essayé de montrer que les œuvres de l'esprit les plus abstraites doivent à l'exigence pulsionnelle de leur auteur, pas seulement leur préhistoire, mais le déploiement d'une problématique et l'invention de concepts. La critique de la raison pure d'Emmanuel Kant est un débat passionné avec Swedenborg, débat qui transforme de l'aveu même de son auteur un trouble très profond éprouvé à la lecture des arcanes célestes, qui exposait un système du monde délirant et fascinant pour Kant, que Swedenborg venait de publier. L'invention de pensée de Kant a consisté à tisser ensemble, d'abord à accepter d'être fasciné et d'éprouver de la répulsion en même temps pour cet auteur, et pour en sortir de cette fascination, pour que sa haine devienne créatrice, et cette haine supposait une emprise, Kant a inventé une nouvelle logique de la négation, qu'il a appelée celle du conflit réel, et l'expérience d'horreur que fut pour lui cette lecture. Il avait absolument besoin de récuser cette pensée, cette mise à distance supposait néanmoins une longue fréquentation des textes du Die Swedenborg, qu'il fallait relier à d'autres pensées, celles de Hume, celles de Leibniz, en dégageant des problèmes qui puissent instaurer des liens avec l'objet de répulsion. J'indique ça simplement, puisqu'on ne va pas parler très longtemps sans doute, sauf si vous le souhaitez, de la critique de la raison pure. Le résultat fut une nouvelle conception de la philosophie, science des limites de la raison humaine, théorie transcendantale de l'objet, etc. Autrement dit, ce n'est pas, et c'est ça qui me paraît décisif, ce n'est pas parce qu'une pensée se formule rationnellement qu'elle est pourtant étrangère aux pulsions. Peut-être que la rationalité, c'est un destin de pulsion dont il faut préciser les coordonnées. Et parfois, Freud s'y est essayé, et je crois qu'il faut, beaucoup étendre ce qu'il a fait. Peut-être qu'on développe le caractère logique de notre pensée quand on est spécialement sensible à ce qui reste d'inassimilable dans l'autre, qu'on veut cadrer justement par des procédures de connaissance. La logique, on est philosophe, ou peut-être scientifique, justement à la mesure du fait qu'on est plus proche de la face obscure de l'autre. Et cette face obscure est un réel qu'on a impérieusement besoin de pouvoir enserrer dans quelque chose. Autrement dit, ce qui est réel, c'est l'inassimilable. Et c'est ça qui développe la logique de la pensée. Lorsqu'une organisation pulsionnelle produit une œuvre, elle permet à celui qu'elle concerne de se détacher de son objet de départ, pour lequel elle a inventé des équivalents partageables par d'autres êtres humains, et même, lorsqu'il s'agit de philosophie, universalisable, ou de science, universalisable. Je vais m'étendre un petit peu sur un autre exemple qui puisse faire comprendre ce processus par lequel un système de pulsion se transforme en œuvre. Lorsqu'on lit les carnets de Léonard de Vinci, on est frappé, dans ses notations de peintre, comme dans ses études de naturaliste, qui dessine inlassablement des objets techniques, des embryons, des formes végétales, animales, humaines, on est frappé par une passion pour le moment de l'indistinction et des transitions entre les formes. Ce qu'il nomme beau, alors je vais vous donner quelques exemples. Si j'arrive à projeter, est-ce que ça marche là? Oui? Merci, merci bien. Ça marche là aussi? Oui, parfait. Il faut le baisser un peu, comme ça? Bon. Sur la droite? Sur la gauche? C'est flou. Oh, que ce soit un peu flou, c'est pas grave, puisque de toute façon c'est flou, c'est bien ça le problème. Si vous voulez, on va regarder plusieurs choses. Alors ça, c'est un dessin de poussière. C'est un dessin de poussière, mais qui pourrait être aussi quelque chose comme un tremblement de terre, comme un éboulis. Ça, c'est un dessin qui représente des tas de déchets qui viennent du ciel, dit Léonard de Vinci dans ses notes. Et si vous regardez bien, là où je mets mon doigt, c'est comme des petits personnages, alors qu'à certains endroits, ça ressemble à ce qu'on regardait il y a un instant, c'est-à-dire à cette poussière qui est un éboulis. Et à d'autres moments, ça ressemble plutôt à quelque chose de l'ordre de l'architecture, là où je mets mon doigt, des maisons qui s'écroulent. Et en même temps, il y a dans le coin qui doit être pour vous le coin gauche, si je ne m'abuse, une autre forme d'éboulis, c'est des éboulis qui ressemblent à des cheveux. Hein bon. Léonard Vinci, des éboulis qui ressemblent à des cheveux. Oui. Alors, ce qui intéresse Léonard Vinci, c'est que dans des déchets qui tombent du ciel, il y a quelque chose qui fait passer, par la grâce du dessin de l'artiste, d'un règne à l'autre. Ah oui, puis j'ai oublié que dans le coin qui pour moi est à droite et qui doit être aussi pour vous à gauche, en haut, il y a des arbres. C'est-à-dire que ça peut être des nuages, mais des nuages qui ont la forme d'arbres. Alors, Léonard de Vinci passait son temps, ou une grande partie de son temps, à dessiner ce qui fait passer d'un règne à l'autre. Je vous en donne encore un autre exemple. Vous voyez, là, sur ce dessin, c'est une image d'orage, mais d'orage avec éventuellement des éboulis et le passage du règne végétal à des maisons, etc. etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que Léonard de Vinci parlait de ce qu'il faisait. C'est toujours très intéressant de voir comment un peintre parle de ce qu'il fait. Et Vinci, tout spécialement, racontait ses dessins. Et même quand les dessins étaient imaginaires, dans un recueil déjà ancien réuni par Chastel aux éditions Hermann, qui sont des textes et des reproductions de Léonard de Vinci, André Chastel prend bien soin de préciser que Vinci, parfois il s'inventait des interlocuteurs imaginaires à qui il racontait ce qu'il allait dessiner. Et il le racontait par le menu. C'est-à-dire que ce passage d'un règne à l'autre, il faisait comme s'il avait besoin de le dire avant de le faire. Et puis en même temps, de temps en temps, et dans sa peinture en particulier, il était complètement lui-même fasciné par ce qu'il appelait la grâce ou la beauté, qu'il ne définissait jamais. Il ne le définissait jamais, mais quand, dans sa technique de dessinateur ou de peintre, un dispositif matériel lui paraissait réaliser ce qu'il cherchait, comme on cherche un objet pulsionnel, un objet de désir, il disait « c'est beau ». Je vous en donne un exemple. Un haut degré de grâce est conféré par l'ombre et la lumière au visage de ceux qui sont assis sur le seuil de demeures obscures, et tel que les yeux de l'observateur voient la partie sombre du visage envahie par l'ombre de cette demeure et la partie éclairée avivée par l'éclat de l'air. Par ce contraste accru d'ombre et de lumière, le visage acquiert un vif relief avec, dans la partie éclairée, c'est ça qui me paraît tout à fait important, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un jeu de contraste entre l'ombre et la lumière, mais ce qui l'intéresse, c'est la lumière de l'ombre et l'ombre de la lumière. Par ce contraste accru d'ombre et de lumière, le visage acquiert un vif relief avec, dans la partie éclairée, des ombres presque insensibles et dans les parties obscures, des reflets presque insensibles. Cette représentation avec l'effet accru d'ombre et de lumière confère au visage sa beauté. Vous voyez que beauté... ça veut dire, c'est ça que je cherche, c'est pas du tout une définition de la beauté. Le moment de la beauté, donc, ce n'est pas le pur contraste d'ombre et de lumière, c'est sa capacité à ce contraste, à se modifier, jusqu'à devenir discrètement son opposé. Presque insensible et pourtant présente est l'ombre de la lumière. Presque insensible aussi, l'obscurité d'un reflet. Faire éclore ce moment de l'indécis grâce à la maîtrise de la distinction et de la technique subtile qui l'a fait dévier, telle est ici la passion de ce peintre qui lui arrache le mot de beauté lorsqu'il la sent se concrétiser sur un papier ou sur une toile. De même, dans ses dessins d'anatomiste et de naturaliste, je ne résiste pas au fait de vous montrer comment, pour lui, une barbe et un tremblement de terre, c'est la même chose du point de vue du dessin. Vous voyez, là, il y a une barbe d'un vieillard, et en dessous, il y a des dessins qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on a vus. Peut-être pour vous, c'est au-dessus. Non, c'est en dessous. Et puis, là, à ce qui est ma droite et qui doit être votre gauche, il y a une reproduction de l'orage. Et bien, un orage et une barbe, c'est indistinct. C'est-à-dire que le dessin aménage toujours l'intervalle où c'est pareil et pas pareil. Merci. Non, je crois que là, ça va. Donc, c'est pas seulement dans les dessins et la peinture qu'il est comme ça, dans les dessins d'objets techniques qui se mélangent avec d'autres règnes aussi. Dans ses dessins d'anatomiste, de naturaliste, la précision est au service d'insensibles transitions aménagées, par exemple, dans ce dessin qui s'appelle Leda, entre le corps d'une femme, les courbes de lianes dont on ne sait si elles sont terrestres ou aquatiques, les volutes du corps d'un serpent qu'épouse la main de Leda. Vinci théorise certes cette pratique du dessin en une philosophie de l'analogie entre le microcosme et le macrocosme, mais ce qui me paraît important, c'est que ces discours tiennent leur importance parce qu'ils sont le commentaire de ces gestes, c'est-à-dire le commentaire des transitions insensibles par lesquelles il produit, pour notre plaisir, de l'ambiguïté. On n'en finirait pas de citer les métamorphoses des formes dans le dessin, la peinture, la technique, en soulignant les échanges des êtres et des choses dont l'artiste se fait le démiurge. Et vous savez, par exemple, que en tant que peintre perspectiviste, ce qui intéressait spécialement Léonard de Vinci, c'est que la perspective plane, celle où on a l'impression que sur la toile, les choses sont dans l'ordre où on les voit dans la perception, cette perspective n'était qu'un cas particulier d'anamorphose, c'est-à-dire de déformation de la perception. Et il explique longuement comment, hop, si on change l'angle, tout devient monstrueux. C'est-à-dire que là encore, dans la maestria avec laquelle il maniait la perspective, ce qui l'intéressait, c'était le passage de l'anamorphose à l'apparence habituelle des choses. Et vice-versa. Et c'est bien ce jeu constant qui fait que nous partageons le plaisir qu'il éprouve dans ses récits à nous décrire ça, même si nous ne sommes pas habités par la même ambiguïté que Vinci, justement parce qu'il transforme ce qui ne serait que ses propres pulsions par la matérialité de ses œuvres. Bon, on a dit, on sait que Léonard de Vinci avait sans doute une structure de désir, comme on dit, homosexuel, il était fasciné par l'ambiguïté des corps. C'est pour ça que certaines de ses toiles, comme vous savez, circulent par le monde et font l'objet de tas de. Sont le prétexte de tas de graffitis. Simplement, il ne suffit pas d'avoir la passion de l'ambiguïté des corps pour être un grand artiste. Mais en même temps, ce qui me paraît très important, c'est que une organisation pulsionnelle, quand elle se transforme en invention d'un style, c'est-à-dire en matérialité, invente l'objet, réinvente l'objet des pulsions. Nous pouvons reconnaître dans les productions de Vinci, nous pouvons nous y reconnaître et en jouir, libérés de ce que peut avoir d'intenable dans la vie, une passion de l'ambigu directement éprouvée est lancinante. Qu'est-ce qui permet de dire devant les œuvres de Vinci que cette invention inlassable de l'indistinct est sexuelle ? C'est sans doute l'intense plaisir des sens, et en particulier de la vue, qui y est sans cesse convoqué. Certes, il ne s'agit pas d'une satisfaction sexuelle directe, c'est-à-dire prise au commerce d'un autre corps, mais l'artiste travaille les mêmes matériaux sensibles que ceux qui provoquent les désirs sexuels. Simplement, il introduit à une culture exacerbée d'un sens qui congédie la collaboration coutumière de nos sens lorsque ces derniers se laissent fasciner par ce qu'on nomme un objet de désir. C'est ce qu'on appelle, en psychanalyse, une pulsion sublimée. Ce qui fait que dans une pulsion sublimée, la satisfaction sexuelle directe peut être indéfiniment repoussée et remplacée par un autre plaisir, c'est le processus même de ces substitutions d'objets dont on peut, c'est ça qui spécifie l'art, suivre le tracé, puisque les œuvres en sont la trace. Au bout du compte, on n'a plus à savoir de quelle pulsion sexuelle précise par la série des substitutions, puisque l'objet lui-même devient ce qui se dépose dans le parcours. À partir du moment où une ambiguïté dans l'identité sexuelle se transforme en une technique matérielle qu'on a appelée le sfumato, c'est-à-dire le rapport subtil des jeux d'ombre et de lumière avec la couleur, lorsque une recherche passionnée de l'ambiguïté sous toutes ses formes se transforme en une technique matérielle et en l'invention d'un style qu'on appelle l'infinito, c'est-à-dire précisément le rapport entre le flou et le distinct, elle n'est plus un symptôme, celui qui faisait que Vinci n'achevait jamais ses œuvres, elle est l'invention d'un objet recréé de façon sélective et qui, c'est ça qui caractérise les objets des artistes par rapport aux nôtres, qui permet de se passer des autres sur lesquels cet objet fascinant était d'abord aperçu. Se libérer de l'autre en créant des objets dont on ne dépend plus, telle est la passion à l'œuvre dans ce qu'on nomme souvent les œuvres de l'esprit et qui ne sont ni du corps ni de l'esprit, mais des pulsions. La ruse d'un artiste, dans ce cas-là, c'est qu'il dépose ses pulsions dans les objets qu'il crée. Il est moins dépendant des objets externes grâce au plaisir qu'il suscite, grâce au plaisir qu'il éprouve à susciter et grâce au fait que l'apaisement que produit cette réalisation tient à la configuration, au fait que la pulsion est remplacée par sa propre configuration. Voilà, ben, je crois que je vais m'arrêter là et attendre vos questions sur beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Merci.
Je pensais ce soir que nous parlerions des pulsions sexuelles et des notions de pouvoir qui est engendré par ça. Par exemple, moi j'avais noté que les pulsions sexuelles étaient un moyen d'acquisition du pouvoir, socialement parlant, humainement parlant aussi. Et j'avais pensé que l'égalité des sexes était un moyen qui est de moindre désir, donc de moindre pulsion sexuelle. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas très clair, mais enfin, vous...
Deux mots seulement, les pulsions sont par exemple un moyen d'acquisition du pouvoir, mais les pulsions, c'est le tracé d'une vie humaine, alors de l'acquisition du pouvoir, comme du reste. On pourrait se demander quelle est la structure pulsionnelle de quelqu'un qui tient absolument à s'insérer dans un rapport de force et qui en jouit, en effet. Et ça serait un certain statut de l'objet. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne se sentent exister que quand ils sont dans une position de pouvoir. C'est certainement pas le même objet qu'ils poursuivent que des gens qui, dans mon genre, qui aiment parler, hein, qui aiment avoir le sentiment que dans l'articulation de leurs phrases, il y a quelque chose d'inédit qui accroche un public. Ça, c'est une pulsion. Et qui, comme vous le voyez, a un objet apparemment très abstrait et pourtant complètement érotisé, on le sait bien. Bon, le pouvoir, c'est un autre destin de pulsion. Qu'est-ce qui fait que des gens ont absolument besoin de prendre des décisions et de, par exemple, de marquer une réunion? Il y a une réunion, il y a des choses, il y a des enjeux. Il y a des gens qui se débrouillent très très bien, mais ils se débrouillent très très bien dans ce genre de situation, parce que ce qui les pousse dans la vie, c'est ce moment où ce qu'ils ont à dire va pouvoir entrer dans le réel. Et c'est ça qui les fait marcher. Ça, c'est une pulsion. Sur l'autre question, je sais pas, vous pensiez, dites-vous, que l'égalité des sexes était un moyen, était une modalité de moindre pulsion, vous vous interrogiez. On peut dire aussi que si les femmes ne demandent plus tout à fait la même chose aux hommes, en effet, si les femmes ne demandent plus tout à fait aux hommes d'être chef de famille, celui qui subvient à tous les besoins matériels de la famille, d'occuper le rôle de père, d'amant, de rapport à la réalité, il y a quelque chose qui change dans le rapport des sexes. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Donc il n'y a pas une seule modalité de pulsion. Il n'y a pas des pulsions moindres s'il y a égalité des sexes, il y a des pulsions autrement structurées qui peuvent mettre les uns et les autres en difficulté. Certes, aussi bien les femmes que les hommes sont déstabilisés quand toute société favorise l'accrochage des individus à certains circuits pulsionnels. Hein, ce qui nous singularise, c'est la manière dont on s'accroche à ces rôles sexués qui circulent dans un système social et qui mettent en jeu la parenté, les responsabilités, les activités. Enfin, il n'y a pas de société sans cela. Les pulsions, c'est la façon dont un individu s'accroche à ça.
Voilà. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, où est la place du libre choix de l'individu? Est-ce qu'à un moment donné de notre vie, on a une prise de décision qui soit libérée de ces pulsions, de cette répétition mortifère, de ces blessures de la petite enfance? Est-ce qu'on peut espérer avoir un libre arbitre à un moment donné de notre vie?
Il y a deux questions dans votre question. C'est-à-dire que il y a celle de la liberté, et puis, il y a celle de ce que vous appelez ces pulsions mortifères. J'ai dit que l'objet d'une pulsion, il est symbolique, c'est-à-dire essentiellement transformable. Mais notre vie, c'est la métaphorisation de nos objets pulsionnels. Alors, il y a une dimension mortifère de la répétition, mais en même temps, l'enfance, c'est la seule source de notre vie pulsionnelle. Donc, c'est en même temps, tout ce qu'il y a de créateur dans la vie, c'est en même temps lié à la structure des pulsions. C'est un drôle de mélange, la vie pulsionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui vise à s'actualiser dans un plaisir absolu qui serait la mort, et puis il y a une possibilité de métaphoriser les objets qu'on recherche, qui fait qu'on réalise des choses qui a dans des sphères d'existence qui sont apparemment pas la sexualité, mais qui sont réelles pour nous, précisément parce que nous y métaphorisons ces objets que nous portons en nous. Et ça, c'est très créateur. Alors, vous voyez, quand je dis ça comme ça, je prononce pas le mot de liberté. Alors, en effet, la problématique de la liberté, en psychanalyse, elle peut se référer à deux choses. Elle peut se référer à, d'abord, enfin, c'est vrai que la problématique classique du sujet libre de ses désirs ou de ses pensées, c'est pas très psychanalytique. Précisément parce que, qu'est-ce que c'est l'idée d'inconscient? C'est l'idée que notre identité, elle est dans l'autre à qui on parle. Et c'est en sachant à qui on parle qu'on sait qui on est. Pour ça, il faut prendre quelques risques. C'est-à-dire, il faut risquer de se laisser aller à ce qui nous dépossède de nous-mêmes. Vous aurez remarqué que je n'ai pas prononcé le mot d'inconscient, mais j'ai parlé de pôle d'altérité inconnu, de face opaque de l'autre, de ce qui est immaîtrisable de l'altérité. Bon, c'est ça l'inconscient. Simplement, comme le mot inconscient a fait beaucoup couler d'encre, je crois qu'on peut dire les choses autrement. Bon. Alors, métaphoriser les objets pulsionnels, d'une certaine manière, c'est sans renier ses pulsions, pourquoi faudrait-il se défaire de soi-même ? Ça peut correspondre à ce que vous appelez liberté. Hein ? Parce que c'est une manière de... transformer ce dont on est fait. Mais ce n'est pas une liberté décidée par un sujet maître de lui-même puisqu'il a besoin de passer par l'autre. Voilà.
Une question encore là-haut, monsieur ? Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît.
Oui. Très concrètement, se passe-t-il entre 0 et 2 ans ?
Vous levez, s'il vous plaît, on ne vous voit pas. Voilà.
Que se passe-t-il pour vous entre 0 ou même peut-être avant la naissance, et 2 ans au moment de l'acquisition de l'outil symbolique du discours sur le plan de la sexualité, la formation de la sexualité, ou les prémices de la sexualité d'une part, et d'autre part, la construction, la mise en place d'un processus d'acquisition de l'intelligence et de la pensée et de l'esprit chez un enfant. Et à partir de là... Oui. Si c'est possible, de nous dire quels sont les quelques critères épistémologiques de ce que vous prétendez en psychanalyse être une science. C'est basé sur quoi, science psychanalytique? Sur quels critères épistémologiques?
J'ai essayé de dire sur quel concept. Hein, une science, c'est une théorie. Donc j'ai essayé de dire sur quel concept. Et ce concept de pulsion, il est fait pour rendre compte d'un fait. Je croyais avoir été claire sur ce point. Si je suis moins polémique que vous dans cet échange, je dirais la chose suivante. L'intelligence d'un petit enfant se forme par des tas de choses. Quand je dis le corps érogène, il est auto-érotique. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant ne perçoit rien. Un enfant, on peut étudier son intelligence, et pas seulement ses rêves. Bon. Ce que je dis, c'est qu'il y a une dimension de la réalité humaine qui est non pas seulement le développement de l'intelligence, mais qui est qui est à l'articulation de l'intelligence et de la formation des pulsions. Et que la psychanalyse rend compte de ça. La psychanalyse n'est pas un discours hégémonique qui parle de tout. Hein ? Il y a d'autres aspects de l'intelligence que celles qui consistent à avoir absolument besoin de penser pour éloigner une angoisse trop forte. Bon. Ce dont parle la psychanalyse, c'est de cette modalité de la pensée qui se forme dans l'éloignement d'une menace réelle ou imaginaire, ou dans l'espoir d'un plaisir qui serait le plaisir absolu. Et le fait de développer sa pensée, ses représentations, sert à ne pas éprouver tout de suite ce plaisir absolu, c'est-à-dire à éloigner la jouissance tout en la recherchant. Bon. C'est ça la conception psychanalytique de la pensée. Et dans l'enfance, il est évident que c'est très important. Et c'est très important, non seulement dans l'enfance, mais ensuite, puisque ce qui se passe dans l'enfance reste en attente de soi, de sa propre réalisation, longtemps, et que quand ça revient sous forme de traces, c'est dans d'autres conditions. Voilà. Donc, je ne nie pas du tout qu'on puisse étudier l'intelligence infantile autrement qu'en rapport avec la sexualité. De même que je ne nie pas du tout, sous prétexte que le corps érogène n'est pas le corps biologique, je ne nie pas du tout que le corps soit susceptible d'une analyse biologique, sinon je serais dingue. Hein ? Bon. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas employer les mêmes catégories ni le même dispositif expérimental pour rendre compte de ce qui est sexuel dans la pensée et pour rendre compte des activités intellectuelles telles qu'en elles-mêmes, comme si elles étaient telles qu'en elles-mêmes. Et qu'en particulier dans l'enfance, la connexion des deux est importante. Voilà. Alors, les garanties épistémologiques de la validité de ce que je dis, j'ai essayé de les mettre en place lorsque j'ai désigné comme fait dont le concept de pulsion rend compte le fait qu'il y a des individus humains qui, sur la base d'une souffrance ou d'un trop de plaisir qui leur rend la vie impossible, viennent voir un autre inconnu pour parler de ça. Ce qui implique en effet qu'on réfléchisse sur ce qui est langage et ce qui n'est pas langage dans le pulsionnel. Voilà. Le concept en jeu, on ne peut pas faire tout à la fois en trois quarts d'heure, le concept en jeu, c'est le concept de pulsion, et le cadre expérimental qui rend compte de l'articulation entre pulsion et caractère symbolique de l'objet, c'est la cure analytique. Je propose que, dans une autre science dont vous vous réclamiez, vous fassiez le travail de façon aussi claire et distincte en m'indiquant quel concept sert à penser quel fait.
Qu'est-ce que vous pensez du bon sens usuel qui, en général, oppose pulsion sexuelle et esprit, dans le sens que plus il y a de pulsion sexuelle, on dit il est comme une bête, quoi. Hein, et au contraire, plus il est intellectuel, plus il y a d'esprit. Et moins il y aurait de la pulsion sexuelle.
Ben, je crois que c'est de là que je suis partie tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez là au début de mon exposé. Donc j'espère que j'ai quand même un peu répondu à votre question. Je pense que les intellectuels transforment des pulsions qui sont un mélange d'envie de détruire et de capacité à construire qui est spécifique. C'est pas pareil d'être un cuisinier extraordinaire du point de vue du mode de transformation de ce qu'on sent par une pratique socialisée et de se battre avec, si on est philosophe, de se battre avec d'autres penseurs dans ce que Kant, encore lui, appelait des combats sans fin de la métaphysique. S'il y avait des combats sans fin de la métaphysique qui l'ont obligé à devenir philosophe, c'est parce que le combat, c'était quelque chose qui avait de la réalité pour lui. Et son mode de vie, c'était, il voyageait très peu, comme vous savez, c'était de s'enfermer dans une chambre en se battant avec un certain nombre d'interlocuteurs pour essayer de formuler des choses informulées. Le fait de formuler ces choses informulées dans un combat qu'il pensait être radical, absolu et qui était sa raison de vivre, le fait de formuler des choses par rapport à ses interlocuteurs antinomiques étant l'apaisement qu'il recherchait. Et ça marche. Donc je ne crois pas que les intellectuels aient moins de pulsions que les autres. Elles sont autrement structurées que celles d'un artiste, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Un artiste, il s'offre le plaisir de déposer à ciel ouvert ses pulsions dans une matérialité qu'il caractérise. Bon, un philosophe ou un mathématicien, il met au point des procédures de pensée d'où, en principe, lui, en tant qu'être pulsionnel, est absent. Alors, je ne peux pas juger du point de vue des mathématiques, encore que quand on parle avec des mathématiciens, il y en a beaucoup qui iraient dans mon sens. Pas tous, c'est vrai. Mais en ce qui concerne les philosophes, un texte philosophique, c'est un débat passionné avec des personnages théorique qui devient la raison de vivre. C'est quand même un drôle de truc. Si ce n'était pas pulsionnel, on ne se comprend pas pourquoi on passerait tant de temps à essayer de démêler des problèmes précis, compliqués, etc. Qu'est-ce qui fait que ça devient le plus réel de l'existence ? C'est ça, une pulsion. Et ça peut donc se déployer dans le registre de la pensée la plus abstraite, mais il faudrait du temps pour voir quelles sont les particularités de cette organisation pulsionnelle-là.
Monique David-Ménard, merci beaucoup.